Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue d'abord dans ce RTL Midi de ce samedi 2 janvier. Bonne année à tous, évidemment. Bonne année, bonne et heureuse année à vous tous et vous, tout auditeurs d'RTL sur notre radio. Et l'information, l'actualité ce midi, c'est d'abord cette rêve partie géante à côté de Rennes qui est maintenant terminée. Les derniers fêtards sont en train de quitter les lieux, quitter ces deux hangars qu'ils avaient investis en toute illégalité jeudi soir. Les habitants de Lieuron se demandent comment on a pu laisser 2500 personnes s'installer. Le préfet d'Ille-et-Vilaine vient de donner une conférence de presse. Il annonce que 1200 PV ont été dressés et demande aux fêtards au moins de faire preuve de responsabilité et d'aller maintenant se faire tester. Une telle soirée peut-elle représenter une bombe à retardement en matière de contamination? On posera la question à Pascal Crépet, qui était épidémiologiste et chercheur à Rennes. On l'interrogera également sur ce couvre-feu qui entre en vigueur ce soir à 18h dans 15 départements, essentiellement dans l'est de la France. Est-ce que ce sera suffisant pour éviter un nouveau confinement généralisé à la rentrée? Nous verrons ce qu'il nous dit. Et puis vous entendrez que ce nouveau confinement plus drastique est encore plus difficile à mettre en place dans les petites villes, dans les petits villages, à cause des temps de transport qui sont là-bas beaucoup plus longs. Dans ce journal également, les inondations spectaculaires dans les Landes. C'est avec ses bottes et en bateau que notre reporter Juliette Chaignon est allée à la rencontre d'habitants qui ont découvert ce matin l'état de leur maison quand ils y sont retournés. Il sera plus facile de divorcer en 2021. Les règles ont été assouplies, y compris, vous l'entendrez, quand la séparation est plutôt conflictuelle. Et puis plus cordiale, on vous parlera à la fin de ce journal de cette tradition qui reste bien ancrée en France, les cartes de vœux. 60% des Français ont l'intention d'en envoyer durant le mois de janvier, avec en plus, c'est vrai, cette année un vrai plaisir à dire adieu à l'année 2020. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
On en parlait à l'instant, le département des Landes d'abord, toujours en vigilance orange. Inondation, même si la décrue est amorcée.
Oui, la décrue est amorcée. Il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. Alors certes, on a un ciel assez nuageux sur le département, mais il n'empêche que les pluies, il y en aura quelques-unes demain seulement. Sinon, pour les autres, la grisaille est en train de l'emporter. On a de grosses pluies orageuses dans le sud-est. Ça va donner des chutes de neige à assez basse altitude. Une limite pluie neige qui va s'abaisser à 400 mètres ce soir sur les hauteurs du Var ou encore des Alpes-Maritimes. Pour les autres, donc beaucoup de grisaille, quelques portions d'éclaircies en Limousin, dans le Poitou ou encore dans le Val-de-Loire. Des averses le long des côtes de la Manche et des températures quand même bien hivernal. 2 degrés à Strasbourg, 3 à Lyon et Toulouse, 5 à Paris, 6 à Lille, 7 à Biarritz et 11 à Nice.
Merci beaucoup Valérie Quintin. Et puis ne manquez pas en fin de journal un reportage à la fois exceptionnel et rafraîchissant de Nicolas Burnand qui est allé dans les Hautes-Alpes rencontrer les bénévoles et les bergers qui travaillent ensemble pour mieux protéger le loup et pour éviter aussi que l'animal n'attaque les troupeaux.
RTL Midi.
Olivier Bois.
La musique techno a donc fini par s'interrompre très tôt ce matin à Lieuron, au sud de Rennes, où 2500 fêtards étaient donc rassemblés en toute illégalité depuis jeudi soir. Les teufeurs, comme on dit, s'étaient installés dans deux hangars désaffectés. Les gendarmes n'ont rien pu faire au moment de leur installation et pendant les deux jours et demi de fête continu. Il a donc fallu attendre ce matin que les participants décident d'eux-mêmes de quitter la zone. L'opération qui est d'ailleurs toujours en cours, Nicolas Bobby.
Absolument, les teufeurs plient bagages en ce moment, à pied, en camion et en voiture. Pendant la fête, beaucoup ne portaient pas de masque.
Personnellement, de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Parce que des fois, ça m'énervait, comme tout le monde un peu.
Vous allez vous faire tester?
Tester pour courir, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Bah, le truc, c'est qu'à des moments, forcément, t'as un peu chaud ou quoi que ce soit, et comme tu respires mal, bah, tu le retires un petit peu. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, c'était quand même vachement cool.
La gendarmerie quadrille toute la zone, présente dans le moindre chemin, elle contrôle tous les véhicules et les rêveurs vident leurs poches.
On va procéder au contrôle, vous sortez de la fête, messieurs?
Oui.
Vous pourriez me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire?
Ce départ volontaire rassure enfin le maire de Lieuron, Roselyne Prévert.
Soulagée déjà quand la musique s'est arrêtée dans la nuit et puis là de voir que en fin de compte il y a une évacuation qui se fait dans le calme, je pense que c'est le principal quoi.
Vous êtes vous-même riveraine, vous avez eu quelques craintes?
Ah ben bien sûr, comme tous les riverains, l'alcool aidant, quelquefois on ne sait pas, ça peut dégénérer.
La nuit prochaine sera donc très calme.
Merci beaucoup Nicolas Bobby, on entend effectivement la lassitude de cet élu. Alors comment cette fête a pu s'organiser? Comment on a pu laisser 2500 personnes rester 3 jours sur la zone sans rien pouvoir faire? Une enquête évidemment a commencé, d'abord pour identifier et pour sanctionner les organisateurs. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a donné tout à l'heure une conférence de presse.
Des procédures sont en cours à l'encontre des organisateurs.
et nous espérons que les conclusions arriveront rapidement. En cette fin de matinée, 400 personnes sont en cours de contrôle. Plus de 800 infractions Covid ont été constatées pour participation à un rassemblement interdit, pour non-respect du couvre-feu, pour non-port du masque. Nous sommes bien au-delà à 7 heures et les choses vont évoluer encore dans les heures qui viennent, au-delà des 1200 verbalisations. L'opération de Lioron est terminée. Les raveurs ont mis leur vie en danger. Il faut maintenant qu'ils préservent celle de leur entourage. La direction générale de l'ARS a rappelé les consignes sous forme de flyers. Ces consignes sont simples. S'isoler pendant 7 jours, se faire tester au bout de 7 jours. Ça sera la preuve d'une responsabilité retrouvée.
Voilà l'appel à la responsabilité du préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, tout à l'heure au micro de Nicolas Bobby. Il est midi 36 sur RTL. On en vient donc à cette vie qui va changer ce soir dans 15 départements, essentiellement dans l'est de la France. Sont concernés également les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Le couvre-feu commencera ce soir à 18h jusqu'à 6h du matin. Les habitants, les commerçants vont devoir réorganiser tous les plannings et c'est particulièrement compliqué à mettre en place dans les petites villes ou dans les villages, à cause essentiellement des temps de transport. C'est ce que vous avez constaté, Yannick Collant, à Woustviller, en Moselle, où vivent un peu plus de 3000 habitants.
Oui, dans cette boulangerie de Woustviller, Francine, la vendeuse, le sait déjà, elle ne sera jamais à la maison avant le couvre-feu, même si la boulangerie ferme à 18h. En zone rurale, il y a des kilomètres à faire avant de rentrer.
J'habite sur Alvillers, 25 km à peu près. C'est pas possible, non, on peut pas fermer, faire la caisse, on peut pas, c'est pas possible.
En revanche, avec le couvre-feu, la boulangerie devrait ouvrir plus tard, 6h au lieu de 4h45. Francine et Tania, les vendeuses, pourront donc dormir un peu plus longtemps.
Nous, on est déjà là à 4h du matin, hein. Je suis déjà sur la route à 3h30.
Et puis là, on viendrait pas avant 5h15. Mais pareil, on a pas encore de directives, quoi.
Vous avez pas encore changé votre alarme de réveil?
Non, pour le moment, il va encore sonner à la même heure, ouais.
Thomas est facteur à Woustviller. Et fini pour lui, les croissants à 5h du matin.
Ça nous arrangeait bien, oui, quand on devait payer les croissants, on s'arrêtait toujours ici. On fera autrement, hein, on viendra les chercher à 6h ou quand ça ouvrira. Hein. Nous, on n'a pas le choix, nous, le camion, il arrive à 4h30, on devra travailler à 4h30. Pour le couvre-feu, on a une attestation de l'employeur, oui.
Le temps que toutes les petites entreprises mettent en place, elles aussi, des attestations, il faudra sans doute quelques jours dans ce secteur rural pour que tout soit dans les clous par rapport au nouveau couvre-feu.
Reportage de Yannick Holland. Vous retrouvez évidemment la carte de tous les départements concernés sur le site rtl.fr. Alors cette mesure, elle est prise pour éviter et pour contrer la réaccélération récente de l'épidémie dans l'est de la France. Certains maires, notamment le maire de Nancy, il l'a encore dit ce matin, ont peur que cette mesure ne suffise pas. On va en parler avec Pascal Crépet. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. On va parler avec vous dans un instant de ce couvre-feu plus drastique. Mais avant, je voulais vous interroger sur cette rêve partie qu'on vient d'évoquer. 2500 personnes, en plus pas très loin de chez vous. Qu'est-ce que ça vous évoque et surtout quel risque ça peut représenter, 2500 personnes qui vont maintenant se disséminer à travers la France et même l'Europe?
Bah, le risque, vous l'évoquez vous-même, hein, c'est le risque simplement de cluster, qu'il y ait eu certaines personnes parmi les participants qui soient porteuses du virus et que ces personnes en aient contaminé d'autres et que ensuite, en retournant chez elles, ces personnes contaminent leurs proches et qu'ainsi ils contribuent massivement à accélérer la dynamique de l'épidémie. On avait vu ce type de gros cluster
à Mulhouse, dans l'est de la France, effectivement, cette soirée, ce week-end religieux qui avait ensuite entraîné des contaminations, oui.
Alors c'est pas tout à fait le même contexte, hein. Donc on ne sait pas encore, hein, si à quel nombre de personnes a pu être contaminées lors de cette rave party, mais s'il y a beaucoup de personnes contaminées, eh bien effectivement ça va donner un coup d'accélérateur à l'épidémie et c'est vraiment pas ce dont on a besoin en ce moment.
Exactement, justement, on en vient à ce couvre-feu qui va être plus sévère ce soir dans l'est de la France. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mesure? Est-ce que, d'abord, au vu du bilan qu'on a fait en octobre, c'est une mesure qui peut suffire à contrer la réaccélération?
Alors effectivement, la bonne surprise entre guillemets d'octobre, ça a été l'effet plus important que prévu des couvre-feux sur la dynamique de l'épidémie. Donc là, avancer l'heure des couvre-feux à 18h dans certains départements, ça a pour objectif de réduire encore un peu plus le nombre de contacts que les personnes vivant dans ces départements ont les uns avec les autres. Mais là où il va falloir faire attention, c'est qu'il ne faut pas que cette avancée du couvre-feu ait pour effet négatif de concentrer des flux de personnes, voire des flux de contacts entre personnes, ben, plus tôt dans la journée, et qu'au final, l'effet escompté du couvre-feu soit diminué par cette augmentation du nombre de contacts un peu plus tôt dans la journée, parce que les gens se concentrent un peu plus, entre 16h et 18h pour aller faire leurs courses ou pour se déplacer. Donc il va falloir que en même temps que ces couvre-feux à 18h, il y ait aussi peut-être beaucoup plus de gens qui simplement restent chez eux pour travailler, donc pratiquent du télétravail, ne se déplacent pas, afin de limiter cette concentration de contacts.
Est-ce que vous êtes inquiet pour la rentrée de janvier qui va donc commencer lundi? On se souvient qu'en septembre, avec le recul, on avait pensé qu'après les vacances, c'est vraiment la reprise, la rentrée à la fois scolaire, la rentrée dans les entreprises qui avait provoqué là encore une aggravation de l'épidémie.
Alors, quand vous regardez les chiffres, en septembre, tout le mois de septembre, on a plutôt bien réussi à contrôler l'épidémie. Le rebond épidémique est arrivé vraiment avec les mauvais jours et nous a un peu surpris, parce que c'est arrivé un peu plus tôt que ce que l'on avait anticipé. Donc là, on est face à ce même risque, parce qu'effectivement, on est toujours en hiver, et donc il est possible que avec le retour au travail et la réouverture des écoles, il y ait ce rebond épidémique. Et puis, il y a aussi l'inquiétude que l'on a tous, qui est de l'effet négatif des réveillons de Noël et du Nouvel An.
Quand est-ce qu'on saura ça? Est-ce que vous avez déjà les premiers indicateurs, vous?
Alors, ce qui est compliqué, c'est que ce que l'on surveillait jusqu'à présent et qui était un indicateur assez précoce, c'était la positivité des tests et puis l'incidence dont on parle. Mais avec les forts changements de nombre de tests effectués avant les fêtes et puis même entre les fêtes, cet indicateur devient un peu fragile. Ce qui fait que le meilleur indicateur, ça reste le nombre d'hospitalisations et de nouvelles admissions à l'hôpital, et ça, il faut compter un décalage de 10 à 15 jours entre l'événement, donc les réveillons, et puis un changement dans cet indicateur. Donc on aura une vision beaucoup plus claire de l'impact négatif à la fois de la rentrée et puis des réveillons d'ici une quinzaine de jours.
C'est difficile de vous demander des prévisions, mais votre conviction, c'est qu'on peut encore échapper à un reconfinement généralisé à la fois dans les départements concernés, mais à la fois sur tout le territoire?
Alors, je vous aurais dit oui il y a encore quelques semaines. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est le nouveau variant du Royaume-Uni qui, malheureusement, commence déjà à se propager très certainement en France et qui risque de changer un petit peu la donne.
Et qui est, c'est une certitude plus contagieuse, c'est maintenant une certitude scientifique.
C'est maintenant une quasi-certitude. Disons que toutes les études vont dans ce sens-là. Et le fait qu'il soit plus contagieux, ça fait que lorsqu'on arrivait à contrôler l'épidémie avec le variant actuel, les moyens qu'on mettait en place pour contrôler l'épidémie ne sont plus suffisants pour pouvoir contrôler ce nouveau variant. Ce qui veut dire que lorsqu'il va vraiment se propager plus largement sur notre territoire, il va falloir renforcer encore plus les mesures. Alors ça va prendre encore un peu de temps, parce que pour l'instant on n'est qu'au début de sa propagation sur le territoire, on le voit encore relativement peu, mais il n'y a pas malheureusement pas de raison de penser qu'il ne va pas continuer à se propager, et donc que l'on doive dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois, renforcer de beaucoup le contrôle de l'épidémie.
Merci beaucoup, merci Pascal Crépet d'avoir été l'invité d'RTL ce midi. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et chercheur à l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Merci à vous et bonne journée. La pub, une pause et dans un instant, les Landes, le département des Landes, les pieds dans l'eau, les premiers habitants sont en train de retourner dans les maisons qu'ils avaient quittées par précaution, et vous entendrez notre reporter avec ses bottes et avec son bateau qui a pu accéder à certaines maisons. À tout de suite.
RTL Midi,
Olivier Bois. RTL Midi avec Olivier Bois.
Midi 45 sur RTL. Donc dans l'actualité ce midi, là, le début de l'année très compliqué dans le département des Landes. Les précipitations records de la semaine dernière ont entraîné des crues historiques de la Midouze et de l'Adour. Résultat, le département a connu des inondations. Là encore record. La décrue est amorcée à la faveur d'un retour du soleil et du temps sec ce week-end. Un certain nombre d'habitants qui avaient préféré quitter leur maison au cas où ont donc pu rentrer chez eux. C'est ce que vous avez vu, Juliette Chénion, ce matin à Tartas, où vous êtes rendue.
Sandrine a quitté sa maison il y a 2 jours pour y retourner, obligée de monter dans le bateau des pompiers. Cette crue, dit-elle, c'est du jamais vu.
De toute façon, on ne voit plus ni les places, ni les... Le long de la Midouze, là où on voyait les barrières, il y a comme un genre de grand ponton en bois qu'on ne voit plus non plus. C'est même au niveau du centre. Dans le centre, vous avez des bancs et tout ça, et on ne voit plus rien. Quoi. Moi, je l'ai vu sur mon téléphone, j'arrivais à suivre sur mon téléphone, mais de le voir en vrai, c'est inimaginable. Quoi.
Après quelques minutes sur l'eau, elle aperçoit enfin sa maison au volet bleu.
Juste là. Et le portail, il est en train de plier en plus.
À l'intérieur, 1 mètre d'eau.
Le frigo, qui est quand même un très gros frigo, il a été emporté par les eaux. Et tout est dans l'eau, canapé, télé, tout baigne dans l'eau. Quand tout va redescendre, qu'on va voir l'ampleur des dégâts, je pense que là, ça sera encore plus dur.
Le couple n'y reviendra pas avant quelques jours. Il remonte donc sur le bateau, une valise à la main.
Parce qu'on a notre fils aussi, donc on lui a pris des vêtements pour nous, au moins de tenir quelques jours. Quoi.
Après un pic dans la nuit, l'eau est en train de baisser. Sandrine, comme tous les habitants de Tartas, n'espère qu'une chose, se retrouver au sec le plus vite possible.
Reportage de Juliette Chénion dans les Landes, donc toujours largement inondée, même si la décrue, on le redit, la décrue des rivières est amorcée. Dans l'actualité de ce samedi midi, à quoi ressemblera l'année 2021 dans le secteur immobilier? Ça dépendra évidemment là encore de l'évolution de la crise sanitaire et de la reprise économique. En 2020, le secteur a plutôt su s'adapter et résister en développant par exemple les visites à distance. Et finalement, même s'il y a une baisse notable, Arnaud Touche, la situation n'aura pas été catastrophique l'année dernière.
Oui, le secteur de l'immobilier a plutôt bien résisté en 2020. Près de 980 000 logements se sont vendus, selon la Fédération nationale de l'immobilier citée par les Échos. Ce chiffre est en baisse de 8% sur un an, mais il est supérieur à ceux de 2017 et 2018. L'indice des prix immobiliers des logements dans l'ancien a augmenté en moyenne de 2,2% en 2020. Le prix du mètre carré est en moyenne de 2 770 euros, selon Meilleurs Agents, qui s'occupent des estimations immobilières en ligne. Les différents confinements et la complexité de certaines visites n'ont donc pas découragé les acheteurs. Dans la capitale, les prix ont augmenté de 1,8% sur l'ensemble de l'année 2020. C'est bien moins qu'en 2019 où la progression était de 8%. Les acheteurs se sont portés sur la banlieue avec des biens plus grands. Les prix de vente augmentent également dans les grandes villes comme Nantes, Angers ou encore Strasbourg, avec des hausses de plus de 4% sur un an.
Merci Arnaud Touche du service économique et social d'RTL. L'année 2020 aura été marquée aussi par une augmentation du nombre de demandes de divorce, probablement liées, on l'a beaucoup dit, aux périodes successives de confinement qu'on a connues et qui ont fragilisé des couples qui étaient parfois déjà un peu en souffrance. Eh bien, pour eux, la procédure est plus simple depuis hier. Plus besoin pour les anciens conjoints de se rendre même devant le juge, même quand le divorce est un peu tendu. Maître Toledano est avocat spécialiste en droit de la famille.
La fameuse audience de conciliation que tous ceux qui ont divorcé connaissent, on allait s'installer devant le juge, on discutait avec son avocat devant le juge pendant quelques minutes, eh bien, ça c'est terminé. Cette audience de conciliation, elle était assez importante parce qu'en fait, la procédure de divorce quant à nos contentieux, bah, on le sait, ça dure longtemps. Un divorce contentieux dure minimum une année et demie, et ça peut durer même plusieurs années dans certains cas. Donc en fait, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va garder les enfants? Est-ce qu'on verse une pension, etc., qui reste dans le logement? Aujourd'hui, on a décidé que cette audience n'était plus obligatoire. On va toujours fixer des mesures provisoires, mais ce seront les avocats qui vont se rendre à l'audience, sauf certains cas particuliers. Par exemple, quand on va se bagarrer la garde d'un enfant, le juge peut considérer qu'il veut absolument voir les parents pour les entendre, pour poser des questions. Mais à part des cas très précis, les conjoints n'auront plus à se déplacer.
Maître Toledano, avocat spécialiste en droit de la famille, interrogé par Cindy Hubert. Et puisqu'on parle de divorce, tiens, le leur a été un peu tendu. On l'a suivi en tout cas toute l'année. La séparation entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, elle est effective depuis hier avec les conséquences économiques qu'on a déjà largement évoquées. Et puis, il y a aussi pour beaucoup un petit pincement au cœur, comme dans une séparation. Dans la vie, malgré les divergences, on reste parfois très attaché à l'ancien partenaire. Eh bien, c'est le sentiment, par exemple, de Jean-Marc Puissesseau, qui est président du port de Calais.
Ça change. Aujourd'hui, nous savons que c'est plus pareil. Sentimentalement, franchement, quand on est calaisien, de voir de nouveau la Grande-Bretagne être vraiment à 36 km de nous avec de l'eau entre deux, oui, ça revient à un pays tiers, ça revient à un pays étranger. On saute pas de joie, nous ne pleurons pas, nous sommes sereins. Vous savez, on a quand même une grande amitié avec eux. Nous aimons beaucoup les Anglais parce qu'ils nous font travailler par le port. Ce qu'on espère vraiment, c'est que le corona soit bientôt derrière nous, que la vie normale recommence. Parce que ça, ça reste au-dessus de nous. Depuis 3 ans, nous avons le virus du Brexit qui était au-dessus de nous. On est même libérés maintenant de savoir comment nous allons pouvoir travailler. Maintenant, il nous reste notre problème, c'est le virus. Et ça, pour nous, c'est très important, puisque c'est à peu près 6, 7, 8 millions de passagers qui, aujourd'hui, que nous n'avons pas à cause du corona. Le port de Calais va perdre 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année à cause du corona. Notre chance, c'est que nous avons aussi des bateaux qui amènent du fret. Donc on a continué à vivre, on a continué à travailler.
Voilà donc l'inquiétude. Et puis la petite pointe d'émotion du président du port de Calais, Jean-Marc Puissesseau, au micro de Franck Hanson, correspondant RTL, dans le Nord-Pas-de-Calais.
RTL Midi, avec Olivier Bois.
Et il est midi 51 sur RTL. L'invité donc de ce RTL Midi est Benoît Martin, président et fondateur de l'entreprise Popcart. Bonjour monsieur.
Bonjour Olivier.
Vous êtes spécialiste, vous, des cartes de vœux, et on va en parler avec vous parce qu'effectivement, on l'entendait avec le Brexit. Hein. Dieu sait que cette année 2020 aura été à la fois particulière et un peu pénible. On est très peu nombreux à la regretter. Est-ce que la tradition des cartes de vœux va être encore plus vivace en France cette année ?
Alors oui, c'est ce qu'on constate chez Popcart. C'est une tradition qui perdure, puisque 80% des Français sont vraiment touchés de recevoir une carte de vœux en cette période. Et c'est vrai qu'après l'année un peu terrible 2020 que tous les Français ont connue, c'est vrai qu'il y a un vrai regain de cette activité. Et les Français envoient beaucoup plus de cartes de vœux cette année que l'année dernière.
Oh, est-ce que les fêtes aussi auront été particulières pour tout le monde ? On a été parfois, le plus souvent d'ailleurs, avec des fêtes assez restreintes, éloignées des proches, des cousins, des tontes, des oncles, des tantes et des oncles, pardon. Est-ce que, là encore, ça va pousser les gens à envoyer plus de vœux ?
Alors, nous, c'est ce qu'on constate. Et c'est vrai que, comme notre service permet d'envoyer des cartes de vœux à distance depuis son site internet ou depuis l'application mobile Popcart, on voit que les clients envoient des cartes de vœux qu'ils personnalisent, donc avec leurs photos et avec un message. Et ils le font d'autant plus que, effectivement, nous, on peut permettre d'envoyer ça directement dans la boîte postale de leur destinataire sans qu'ils aient à se déplacer. Et le fait qu'ils étaient contraints physiquement à ne pas forcément pouvoir se retrouver cette année, fait qu'ils se sont vraiment tournés vers les cartes de vœux envoyées depuis Internet.
Les gens qui reçoivent les cartes de vœux expliquent que c'est différent de recevoir une carte, un courrier dans la boîte aux lettres plutôt qu'un texto rapide. Il y a une vraie implication un peu, et puis une implication sentimentale plus importante, quoi.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, envoyer un WhatsApp, un SMS, ça va très vite, alors que envoyer une carte de vœux, déjà, on a pris le temps de l'écrire, on a pris le temps de choisir une photo, de mettre un message personnel dans lequel on va écrire avec beaucoup plus d'affect. Et effectivement, quand on reçoit aujourd'hui beaucoup moins de courriers, quand on reçoit cette carte de vœux papier dans sa boîte aux lettres, on fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, les clients les gardent ensuite sur leur bureau, sur leur frigo. Et c'est vraiment une tradition auquel ils sont très attachés.
Et les jeunes le font un peu moins, les 18-24 ans, je disais ça dans votre étude tout de même.
Effectivement, quand on regarde les jeunes de 18-24 ans envoient un petit peu moins de cartes de vœux à leurs parents. Par contre, effectivement, ceux qui en envoient beaucoup plus, c'est la tranche plutôt 35-50 ans. Ce sont les familles, effectivement, qui envoient des cartes de vœux. Et encore une fois, on le voit chez Popcart avec beaucoup de photos des enfants de la famille.
Et alors, je disais quelque chose dans votre étude qui m'a fait un peu rire. Il paraît que c'est la belle famille qui est le moins destinataire des cartes de vœux.
Effectivement, belle famille et collègues sont les plus négligés quand il s'agit d'envoyer des vœux. C'est surtout effectivement les amis, les parents, les enfants et les frères et sœurs qui sont les premiers destinataires des cartes de vœux.
Merci beaucoup, merci Benoît Martin d'avoir été l'invité d'RTL ce midi. Les cartes de vœux qui ont donc toujours le vent en poupe, même si c'est un peu moins le cas, on l'a compris, pour les belles familles. Bonne journée à vous. En bref, les obsèques de Robert Hossein, décédé donc jeudi à l'âge de 93 ans, elles auront lieu mercredi prochain dans l'intimité familiale à Vittel dans les Vosges. La famille qui précise qu'il y aura une cérémonie plus ouverte au public, à ses collègues acteurs ou metteurs en scène, dans le courant du mois de janvier. Une pause dans un instant, le reportage exceptionnel de Nicolas Burnand. On va prendre l'air un peu dans les Hautes-Alpes. Il est allé à la rencontre à la fois des bénévoles, des bergers qui travaillent ensemble pour protéger le loup et pour éviter qu'il n'attaque les troupeaux.
RTL Midi. Olivier Bois. Vous êtes comme ça.
Durant ces vacances de fin d'année, vous l'entendez sur RTL, on vous propose de redécouvrir quelques-uns des meilleurs reportages de votre rendez-vous quotidien. Vous êtes comme ça, des initiatives positives, des portraits de Français bienveillants, des petites histoires du quotidien qui font du bien et qui donne le moral, Dieu sait qu'on en a besoin. Aujourd'hui, c'est un reportage de Nicolas Burnand, diffusé le 12 octobre. On vous emmène à la rencontre des loups, direction, je vous le disais, les Alpes de Haute-Provence. Là-bas, grâce au programme Pastoraloup, des bénévoles engagés pour la protection des loups aident les éleveurs et les bergers à surveiller les troupeaux en montagne pour éviter les attaques. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour.
Vous êtes rendu donc précisément à Praubléon, dans les Alpages, à 1800 mètres d'altitude, Nicolas.
Aux abords des sapins, dans une clairière, un troupeau de plus de 1000 brebis profite de l'herbe de la montagne. Pour les guider, un chien et deux jeunes bergers.
Là, on les amène sur le côté droit de ce vallon. Elles peuvent y pâturer, et là, peut-être deux ou trois jours. Moi, je les appelle et le chien les pousse. Amène-les, amène-les.
Une fois arrivé sur la crête, Paul, 26 ans, longue barbe et vigilant, le loup n'est jamais très loin.
Il y a des endroits qu'il faut éviter parce que tu sais que s'il est là, et bah, ça va faire boum. Les bois très denses, et surtout si c'est très pentu, si t'as de la falaise à côté. Quand il se fait attaquer dans ces endroits-là, c'est pas une ou deux brebis, mais c'est tout de suite 50, quoi. Tu peux rien faire.
Cet été, sa petite amie, Marianne, a vu plusieurs fois ses prédateurs près du troupeau. Il y a même eu une attaque dans la vallée.
Ils étaient de l'autre côté du vallon, mais je les voyais bien aux jumelles, ils devaient être à 200 mètres. Et j'ai sifflé un tout petit peu. Là, ils m'ont regardé, ils m'ont vu, et ils ont fait demi-tour, chacun leur tour. C'est incroyable. Après, il y a eu une attaque avant de monter les dernières brebis au village en bas. La dizaine ou la vingtaine qui est montée, y en a cinq qui sont mortes. Des blessures qui n'arrivaient pas à se refermer, qui sont tombées malades, etc. C'est d'autant plus dur parce que tu t'y attends pas, quoi.
C'est une surveillance de tous les instants et c'est loin d'être facile pour les bergers.
Moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai eu des copains à se faire attaquer tous les soirs, toutes les nuits, pendant une semaine, deux semaines. Du coup, tu dors pas. C'est toi qui fais les rondes. Et là, c'est plus possible, quoi. Tu peux plus travailler si tu peux déjà pas dormir, quoi.
À la tombée de la nuit, Paul et Marianne peuvent désormais dormir tranquilles. Ils passent le relais à François, un bénévole. Ce retraité, ancien salarié de la poste, installe sa tente à côté de l'enclos où les brebis se reposent.
Si jamais il y a quelque chose qui se passe, t'entends les cloches, ils courent dans tous les sens et tout, là tu te lèves et puis t'éclaires. Là le parc il est vraiment pentu, alors il faut faire attention. Je voulais pas rester dans un bureau à lire des trucs. Moi je voulais être sur le terrain et voir la pression du loup. Alors la présence humaine, ce que je fais moi, c'est un des moyens de protection des troupeaux contre le loup.
La nuit a été calme. François redescend jusqu'à la cabane du berger. Un lit, une table, pas d'électricité, mais un poêle à bois. Ils partagent ensemble un café, débattent de la présence du loup dans la région.
Ouais, je ne serais pas contre de donner la possibilité au berger d'avoir un fusil et de tirer à vue pour tuer un loup qui est rôde autour de ton troupeau.
Tu vas passer des nuits à guetter le loup et tu vas dormir quand ?
Là, il y a peut-être une demi-mesure entre la protection stricte et l'éradication.
Quand tu vois un berger qui pleure, quand tu vois l'état des brebis quand ils sont attaqués, ma vision sur le loup, elle a évolué. Je suis pas un intégriste du loup, quoi. Il faut que les gens ils puissent travailler en montagne.
Pour assurer un dialogue apaisé, défenseur du loup et éleveur signent un contrat où ils s'engagent à respecter les positions de chacun. Éric Vissouze est responsable de ce programme.
On permet à des gens de se rencontrer, de se parler, de ce que disent vraiment les uns et de ce que vivent vraiment les autres. Il y a pas mal de situations où il y a des amitiés qui se créent, il y a des bénévoles qui deviennent bergers, il y a des compromis à faire, il faut les trouver et c'est ce qu'on fait à notre modeste niveau.
Dans la montagne, la pluie commence à tomber, le berger quitte sa cabane avec son troupeau, François, le bénévole, lui se repose, la nuit prochaine, il veillera une nouvelle fois sur les brebis.
Voilà pour ce reportage en altitude réalisé, précisons-le, à l'automne par Nicolas Burnand, juste avant l'arrivée de la neige. Et vous retrouvez évidemment ce rendez-vous quotidien, vous êtes comme ça, dès lundi dans les matinales de Julien Cellier et d'Yves Calu.